Bonsoir et merci de suivre Radio Capri ce vendredi 15 novembre 2013. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la signature manquée du document marquant la fin des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 prévu lundi dernier en TB en Ouganda. Et comme deuxième sujet de notre émission, nous parlerons du bilan de la mise en œuvre de mesures importantes des concertations nationales annoncées par Joseph Kabila lors de son dernier discours devant le Congrès. Il s'agit entre autres de la formation imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, de la mesure portant grâce présidentielle et de la fin de la guerre. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Ludor Balekelaï. Il est éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Bonsoir Ludor.
Bonsoir éminent confrère Samuel Kachak.
Nous sommes également avec Giscard Koussema. Il est directeur général de la Radio-Télévision Canal Futur. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Samuel, bonsoir Ludor et bonsoir à Magloire.
Nous sommes également avec Magloire Paloukou, il est directeur général de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au nord Kivu, mais il intervient pour ce moment depuis Kampala en Ouganda. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Samuel, bonsoir Giscard et bonsoir Ludor.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. La signature manquée du document marquant la fin des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23, ainsi que le bilan de la mise en application des mesures importantes des concertations nationales annoncées par Joseph Kabila lors de son dernier discours devant le Congrès, ont été largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
Les journaux parus ce vendredi 15 novembre 2013 ont repris certaines des déclarations de Lambert Mende dans lesquels il était revenu hier sur l'échec de Kampala. Devant la presse réunie dans son cabinet, Lambert Mende a déclaré que sa démarche consistait à rétablir la vérité sur ce qui s'est réellement passé lundi 11 novembre 2013 à Entebbe, explique le potentiel. Il a de ce fait aligné l'un après l'autre les éléments qui, selon lui, prouvent à suffisance la partialité dont a fait montre l'Ouganda depuis l'ouverture le 9 décembre 2012 des négociations avec le M23. Le gouvernement avait fait savoir à la facilitation à présence des envoyés spéciaux qu'il était désormais inopportun pour lui de signer un accord avec le M23. Il avait plutôt proposé que, pour sanctionner la fin des pourparlers, le M23 signe une déclaration renonçant à la rébellion, tandis que le gouvernement de la RDC signerait un document séparé reprenant ses engagements au terme des pourparlers, a déclaré Lambert Mende cité par Forum des As. Plus de trois semaines après le discours du chef de l'État annonçant les mesures en réponse aux recommandations des concertations nationales, RadioCapi.net revient sur les propos du porte-parole du gouvernement qui affirme, je cite, « la plus grande et la plus importante des mesures qui était la fin de la guerre qu'on nous faisait à l'Est a été accomplie. Je pense que maintenant la rébellion du M23 a été vaincue. C'est la première promesse que les concertations nationales ont arrachée du chef de l'État », a estimé mercredi 6 novembre Lambert Mende. Deux semaines après son discours, la plupart des mesures annoncées par Joseph Kabila en réponse aux recommandations des concertations nationales ne sont pas encore appliquées. Les chefs de l'État congolais avaient notamment annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale qui comprendrait des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Au sujet de la formation de ces gouvernements, Lambert Mende appelle à la patience, expliquant que les chefs de l'État n'avaient pas donné de délai pour la formation de cette équipe de cohésion nationale. Je pense qu'on ne presse pas un président de la République, un président responsable et consulte les gens, il va proclamer, il a promis, ça va se faire, indique-t-il.
Ludor Balekelaï, vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la présence d'une centaine de militaires de l'armée rwandaise en RDC vers la frontière congolo-rwandaise dans la localité de Morambi, territoire des Nirangongo au nord Kivu, environ 3 km de l'aéroport de Goma. Comment est-ce que vous analysez cette information et ces différents rebondissements, bien sûr?
Merci de la question, Samuel. Je crois que s'il s'avère vrai que le Rwanda a encore une fois franchi le Rubicon en envoyant ses troupes pour défier la République démocratique du Congo, Je crois que c'est une initiative, comme le disait il y a peu le chef de l'État, qui sera suicidaire, non seulement pour ce pays, mais également pour l'ensemble de la région, alors que tous les esprits sont orientés vers les voies et moyens les meilleurs susceptibles de ramener la paix en République démocratique du Congo. Ceci dit, nous revenons quand même sur les informations.
Un presse commentaire, bien sûr.
Oui, sur les informations mises à notre disposition par la MONUSCO, qui a déclaré n'avoir pas eu d'indices faisant état de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Si tel est le cas, nous estimons que le Rwanda aura tiré des leçons de tout ce qui se passe, notamment le changement des rapports des forces dans la région des Grands Lacs.
Oui, Giscard Koussem, vous, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio et télévision Canal Futur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot par rapport à la relance de votre média qui, depuis un moment donné, n'aimait pas. Où en sommes-nous?
Nous continuons toujours d'attendre l'application de résolution des concertations nationales. Vous le savez, la réouverture des canaux futurs fait partie de 10 pertinentes recommandations prises par d'éminentes personnalités qui ont participé à ces assises. Et l'opinion nationale comme internationale avait été prise à témoin. Et il nous reste donc à constater dans les faits, avant que nous prononcions, donc nous continuons d'attendre parce que au moins les concertations ont mis fin à la polémique qu'il y avait entre les ministères et nous au sujet du cas de Canal Futur.
Oui, Giscard Koussem, puisque nous sommes toujours avec vous, en plus des sujets qui ont été évoqués dans notre revue de presse que Guy Maté vient de présenter, quels sont les autres sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine et que vous pouvez peut-être donner un petit commentaire, bien sûr?
Oui, l'actualité reste toujours dominée par la situation à l'est du pays, le développement de la situation avec tous ces corollaires. Et ce sont donc tous ces aspects qui sont liés à cette guerre de l'Est qui intéressent le pays. C'est vrai qu'on est plus focalisé sur ce qui s'est passé, mais on s'intéresse très peu sur les conséquences, sur les conséquences de derniers développements. Il nous appartient, nous, à la presse, de faire ce travail après l'armée, de passer sur terrain, voir comment vit la population maintenant. Mais malheureusement, pour des raisons bien évidentes, vous constaterez que nous intéressons à faire un peu le monitoring d'autres médias, mais il y a très peu de reportages sur le terrain, et ça, c'est pas du tout bon pour la presse.
Oui, Magloire Paloukou, je rappelle que vous êtes au directeur général de la radio Kivuane, émettant depuis Goma au nord Kivu. Mais présentement, vous intervenez depuis Kampala en Ouganda. Quelle est l'actualité à la une cette semaine à Goma, au nord Kivu, où votre média est basé? Magloire Paloukou, vous m'écoutez? Bon, apparemment, Magloire Paloukou n'est pas en ligne. Le temps que la technique puisse tenter de le relancer, sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. Le gouvernement de la RDC et le M23 n'ont pas signé le document sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala. C'était lundi dernier en TB en Ouganda. Et pour cause, la délégation de Kinshasa ne s'est pas présentée dans la salle de présidence du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Avec nous depuis en TB, notre envoyé spécial Jules Ngala Wamona.
C'est le porte-parole du gouvernement ougandais Ofwono Opondo qui l'a annoncé ce lundi soir à la presse. Selon lui, la délégation du gouvernement congolais, bien que présente dans le palais présidentiel à Entebbe, n'a pas souhaité rencontrer la délégation du M23 et celle de la communauté internationale déjà présente dans la salle ad hoc. À la question de savoir à quand le prochain rendez-vous, M. Ofwono parle tout simplement d'une divergence. Un membre influent de la délégation gouvernementale, parlant sous anonymat, avait déjà évoqué la dite divergence devant la presse. Un problème qui, selon lui, risquait de ne pas mettre d'accord sa délégation et la facilitation. L'intitulé du document a signé « Déclaration et non pas accord », mais aussi au niveau de l'interlocuteur, le M23, qui a déjà signé sa propre mort, selon cet officiel congolais. Jules Ngala à Entebbe en Ouganda, Fadé Okapi.
De son côté, le porte-parole du gouvernement congolais attribue l'échec de la signature d'un document mettant fin au pourparlers de Kampala à la facilitation ougandaise qui n'a pas tenu compte, dit-il, de l'évolution des événements et des amendements à faire sur le texte à proposer à la signature. Dans une conférence de presse tenue hier jeudi à Kinshasa, Lambert Mende a réaffirmé la volonté du gouvernement de mener à bon port ses pourparlers. Il a également annoncé des dispositions que compte prendre le gouvernement au cas où un consensus n'est pas trouvé dans un délai raisonnable sur un document à signer. Suivons ce compte-rendu d'Innocent Olenga.
Dans sa conférence de presse d'hier, Lambert Mende est clair sur ce point. Le gouvernement congolais entend, dit-il, prendre des dispositions concernant les principales préoccupations au pourparlers de Kampala.
Concernant l'amnistie, le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Il s'engage plutôt à proposer incessamment à la représentation nationale un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et faits d'insurrection couvrant la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à ce jour, en faveur de tout membre du M23 qui s'engagerait individuellement et par écrit à s'abstenir de manière permanente de recourir aux armes.
De l'intégration ou réintégration des ex-combattants du M23 au sein des FARDC, il donne la position de son gouvernement.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'accepte pas l'intégration des éléments de l'ex-rébellion du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo.
Quant à la démobilisation et la réinsertion sociale des combattants du M23, les structures appropriées de l'État avec le soutien de la MONUSCO s'en chargeront. Enfin, pour les retours des réfugiés et des personnes déplacées, Lambert Mende confirme que le gouvernement s'engage à œuvrer pour la mise en œuvre rapide des accords tripartites signés avec les HCR et les pays voisins.
Oui, jusqu'à côté, comment est-ce que vous analysez l'échec de la signature de ce document attestant la fin des pourparlers de Kampala?
Écoutez, Samuel, tout d'abord, la polémique sur la sémantique, je crois qu'est un faux débat. Déclaration, accord ou encore engagement, les plus importants restent les contenus. Et la dernière sortie médiatique du ministre lève un coin de voile sur justement les contenus, parce que c'est ce qui devrait intéresser le public maintenant. Quels que soient les noms qu'on devrait donner à ces documents, ce sont les engagements que le gouvernement congolais devrait prendre qui intéressent les plus. Alors, si on devrait parler de ces engagements, on devrait d'abord savoir de prime abord que la paix n'est pas toujours l'absence de la guerre, on l'a toujours dit. Et donc, quelle que soit la bravoure d'une armée, une victoire militaire n'amène toujours totalement pas la paix. On peut évoquer plusieurs exemples ici, les cas de l'Irak ou de la Libye. Donc, les deux seigneurs qui étaient là ont été décapités, mais la paix n'est pas toujours revenue, ça reste un bourbier. Donc, le plus important ici, par rapport au dossier de Kampala, c'est les contenus, ce sont des engagements. On ne devrait pas considérer que la solution militaire, elle suffit et qu'il n'y a plus rien à signer entre eux. C'est vrai qu'il est indécent, nous l'avons toujours soutenu, il est indécent de pouvoir aujourd'hui se mettre en face d'un mouvement qui a été vaincu, mais la pilule avait déjà été prise depuis le début. On ne cessait de dénoncer la partialité de l'Ouganda, mais on a laissé faire l'Ouganda jusqu'à obtenir l'accord cadre, jusqu'à obtenir la résolution 2098. Donc, on est devant une situation de fait aujourd'hui. Le gouvernement congolais se doit donc de signer un document pour essayer un peu de vider maintenant tous les prétextes, parce que toutes les rébellions qui commencent à l'Est donnent toujours comme raison des frustrations nées de non-respect de tel ou tel autre engagement. Donc je pense que accord ou déclaration, les termes importent peu.
Mais le gouvernement n'a pas refusé de signer un document. Il a plutôt dit qu'il va signer un document, mais une déclaration.
Oui,
et non un accord.
Mais justement, on ne devrait plus se lancer dans cette polémique-là, parce que dès lors qu'une déclaration engage deux parties, ça devient un accord. Donc c'est les contenus. Et tout ce que le ministre porte-parole a évoqué ici, c'est bien bon, on le félicite. C'est ça la position d'un État. Mais pourquoi ne pas mettre ces contenus-là dans un texte plutôt que de les faire de manière unilatérale? À ce moment-là, les M23 ne se sentiraient pas concernés.
Ludor Balekelaï, jusqu'à Kousema pense que l'important c'est le contenu du document et non de la guerre des sémantiques. Qu'est-ce que vous pensez de son point de vue, bien sûr?
Bien, si on ne veut pas la guerre sémantique, il faut alors proposer une panacée à la place. Si ni l'accord ni la déclaration ne conviennent pour mon éminent confrère, il aurait proposé carrément l'intitulé du document qui devra, bien entendu, consacrer...
Je parle du terme engagement. Ah, voilà les termes que je donne. C'est l'engagement.
Je vous en prie. Tout à fait. Alors, moi je suggère plutôt la signature du certificat de décès du M23, comme j'ai eu à le dire, je crois, au cours de l'émission au passé. Tout simplement parce que le M23 est aux yeux de la communauté internationale perçu comme une force négative. Alors, en tant que tel, je ne vois pas pourquoi, après la victoire militaire de la République de FRDC, sans basculer bien entendu dans le triomphalisme, on peut encore aller se rasseoir autour d'une même table avec cette force négative. Je crois que même la crédibilité de la communauté internationale qui a accompagné ce processus de pacification de l'Est se joue dans la manière dont cette situation va être réglée. Le M23 étant vaincu, donc ce qu'on peut faire, c'est que après la déclaration faite par la direction politique du M23 renonçant à la rébellion, à la lutte armée, il faut que le gouvernement de la République, qu'il a déjà fait d'ailleurs, après avoir pris acte, puisse effectivement prendre des mesures allant dans le sens du cantonnement, de la démobilisation et de la réinsertion, non pas dans l'armée, mais dans la vie sociale. Ça veut dire que tous ces éléments du M23 qui ont multiplié les veufs et les orphelins sur le sol de nos ancêtres à cause de la guerre qu'ils ont menée par procuration dans la partie orientale du pays, devraient se retrouver soit dans des brigades agricoles pour cultiver les champs, pour élever les vaches et qu'on sort les autres sur des chantiers de construction des routes avec comme main d'œuvre chinoise ou congolo-chinoise, sino-congolaise. Donc ce sont des gens qui ne peuvent plus avoir leur place au sein de l'armée pour la seule et bonne raison qu'ils ont déjà été conditionnés psychologiquement par les agresseurs et qu'en les mettant ensemble, ils pourraient encore une fois rééditer l'exploit. Parce que je vous rappelle, avant que je n'arrête, confrère, juste quelques secondes, les mêmes éléments du M23 pour la plupart, ils viennent du RCD. Ils ont bénéficié d'une certaine amnistie à un certain moment. Ils se sont retrouvés dans une autre rébellion du CNDP. Il y a eu les accords de Goma qui ont été signés, je crois que c'est l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui avait conduit la conférence de Goma. Il y a eu les accords du 29 mars avec le ministre Tshibanda. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui veulent encore rentrer dans l'armée et il n'y a pas de garantie qu'ils ne refassent plus les mêmes bêtises. Voilà pourquoi le gouvernement est strict. Il faut que ces gens-là soient mis à l'écart. Pas de contact, en tout cas, direct. Pour merci, négocier Victor. De quoi que ce soit avec eux, leur sort sera bien entendu défini par les lois, non seulement nationales, mais aussi internationales.
Merci Ludor, nous vous gardons encore avec nous le temps de rejoindre Magloire Paluku. Allô Magloire?
Oui, j'écoute.
Ok, nous vous avions perdu tout à l'heure, maintenant que nous vous avons récupéré. Je rappelle que vous intervenez depuis Kampala en Ouganda. Expliquez-nous un peu, vous qui êtes sur place, les conditions qui ont concouru à l'échec de la signature de ce document sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala. Pourquoi les uns sont attachés au concept déclaration et les autres au concept accord?
Alors, il faut dire que moi-même, j'ai été au Stadthouse, donc au palais présidentiel chez Museveni, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. J'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères, plus tard le ministre Raimo Tshibanda, après son refus d'entrer même dans la salle de banquet où l'attendait le président Museveni et tous les autres. Et il a dit que, et c'est très important par rapport à ce que les confrères viennent de dire, il n'y a pas d'obstacle pour le fond. Le fond, ce sont les conclusions de Kampala. Les conclusions, l'engagement du M23. Mais ça, il s'est suivi deux choses, a ajouté le facilitateur que j'ai interrogé, l'évolution sur terrain où le M23 a été vaincu, et puis la guerre des mots, comme le disait jusqu'à Kusima. Alors, ici, la différence juridique entre un accord et une déclaration se porte d'une grande valeur quand ce sont les conclusions. C'est pour cela que la facilitation congolaise, la facilitation ougandaise, autant pour moi, le président Museveni a caché à la délégation congolaise le document qui devrait être lu dans la salle. Nous avons tous attendu plus de 3 heures qu'on présente ce document parce que la délégation congolaise venait et elle est venue à la maison présidentielle, mais s'est terrée dans une salle en attendant de lire ce document complet
qui devrait impliquer les conclusions de Kampala. Comme le président Museveni a refusé, il voulait surprendre le gouvernement congolais qui doit prendre connaissance de ce document. Raymond Tshibanda a dit nous n'entrons pas et nous rentrons. C'est ainsi que l'URM s'est venu se fâcher, il est parti, et ainsi que toute la délégation. Bref, c'est quoi? Le fond, ça veut dire la fin de l'engagement de M23 de ne plus être une rébellion, de ne plus reprendre les armes. La fin de l'engagement qu'on cantonne les éléments de M23 et qu'ils suivent le DDRR, démobilisation, réinsertion. Ces conclusions restent là, même dans un document qui n'est plus un accord entre deux parties, puisque le gouvernement a vaincu les rebelles, c'est ce qui a cloché. Mais il se passe qu'il y a une certaine évolution jusqu'ici, puisque une partie du M23 vient d'accepter de dire c'était une querelle depuis un mois dans le M23, acceptons ça, ça ne change rien, puisque ce sont des conclusions de Kampala, on rentre au pays. Voilà ce qui s'est passé et ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui depuis deux jours.
Oui, Magloire Paluku, nous revenons à vous, mais Giscard Kossema, le gouvernement congolais de son côté accuse ou attribue l'échec de la signature de ce document sanctionnant la fin des pourparlers de Kampala à la facilitation ougandaise qui n'a pas tenu compte, selon bien sûr Lambert Mende, de l'évolution des événements et des amendements à faire sur les textes à proposer à la signature. Qu'en pensez-vous alors?
Écoutez, je l'ai dit tantôt, la partialité de médiateur ou grandé était déjà remise en cause depuis bien longtemps. Mais c'est que le gouvernement devrait faire. Il est vrai, il doit faire prévaloir effectivement ces contenus tels que présentés par les ministres porte-parole. Donc, c'est d'aller vers ces gens, de faire prévaloir ces idées-là et que cela soit sur papier. Ce que nous ne voudrons pas, c'est de laisser cette rébellion comme ça dans la brousse sans rien, mais ça constitue une force négative qui peut à tout moment changer d'étoffe et revenir. On parle déjà des soupçons de bruit de bottes du côté rwandais, mais ce sont des professionnels des armes. Ces gens, vous allez le retrouver depuis la FDL, ils ont traversé toutes les rébellions jusque maintenant. Donc je crois qu'il faut profiter de ce moment maintenant qu'ils sont connus et que ceux qui les soutiennent et les gardent sont connus, ce sont des Ougandais, mais c'est à travers justement ces contacts-là qu'il faut tirer les choses au clair, parce que si aujourd'hui aucun document n'est signé, qu'il s'agisse d'un accord ou d'une déclaration, écoutez, cela en tout cas ne profite pas forcément au gouvernement congolais, parce que c'est une force négative, professionnelle. Ils continueront toujours à faire du mal et ils peuvent revenir sous une autre forme et c'est la population congolaise qui va en pâtir. Donc nous savons qu'il y a un problème de partialité au niveau de la médiation ougandaise. Le gouvernement l'essaie, c'est peut-être en position de faiblesse que cela avait été accepté, mais il faut aller jusqu'au bout pour vider tout le prétexte d'une énième rébellion. Parce que n'oublions pas que l'Ouganda prend en témoin maintenant la communauté internationale. Parce qu'en fait, ils sont là comme médiateurs représentant la communauté internationale. Donc il faut vider cela. Il faut y aller. Déclaration ou accord, ça importe peu. Pourvu qu'en tout cas, qu'il y ait des choses claires telles que le ministre porte-parole l'a dit ici. On ne va pas amnistier tout le monde. On ne va pas non plus intégrer n'importe qui on sait de l'armée. Mais pourvu qu'il y ait quand même un papier, un document qui accorde, disons, une sanction, disons-le comme ça, une sanction à ces forces négatives.
Oui, Luder Balekelaï, le M23 est défait, mais les groupes armés continuent toujours à mettre l'Est de la RDC à feu à sang. Et pour résoudre ce problème des groupes armés, les Nations Unies ont exhorté la RDC à se doter d'un plan qui permet la démobilisation, désarmement et la réinsertion sociale de tous les combattants appartenant bien sûr à ces groupes armés présents à l'Est de la RDC. Comment est-ce que vous analysez cela?
Merci, confrère. Avec votre permission, je vous en prie très humblement. Je voudrais placer un petit mot pour compléter ce que mon éminent confrère Giscard Kossema a dit tout à l'heure en rapport avec le M23 qu'il ne faut pas laisser dans la brousse. Je partage totalement ce point de vue. Mais c'est la raison pour laquelle, effectivement,
la République démocratique du Congo compte sur la bonne volonté des envoyés spéciaux des organisations internationales, de la communauté internationale à différents niveaux. Ici, je songe au chef de la MONUSCO, je songe à Mary Robinson, envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies, je songe à Rachel Feingold des États-Unis d'Amérique, à Diakara de l'Union africaine, à Cohen de l'Union européenne, tous ces envoyés qui ont exprimé leur mécontentement au regard du comportement affiché par le président ougandais lorsqu'il fallait signer la déclaration de le certificat de décès du M23 à Kampala. Nous devons compter sur leur bonne volonté pour qu'ils obligent le Rwanda et l'Ouganda à extrader, et bien entendu, ces rebelles qu'ils ont hébergés sur leur territoire en conformité aux engagements pris au terme de l'accord cadre donc de février de l'année dernière, mais également en conformité à l'accord de coopération judiciaire entre ces deux pays, sans oublier la convention de Genève de 1948 et la convention de l'Union africaine de 1967 relative, bien entendu, aux aspects particuliers des réfugiés niveau de l'Afrique.
Le plan DDR proposé par...
Le plan DDR, justement, mon confrère, c'est la meilleure solution, c'est qu'il faut donner à ces gens-là le temps de s'organiser. Par exemple, en ce qui concerne les groupes armés, il n'y a pas que les groupes armés nationaux, il y a aussi les groupes armés étrangers, par exemple les FNL, les FDLR, qui menacent tantôt la sécurité de l'Ouganda. Vous comprendrez pourquoi l'Ouganda veut maintenir le M23 sur son sol pour faire pression sur la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez pourquoi le Rwanda maintient aussi une partie des dirigeants du M23, parce qu'ils estiment que les FDLR pourraient menacer leur sécurité. La solution, c'est pousser ces gens, avec l'aide de la communauté internationale, à se démobiliser, à défaut de quoi les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la brigade de la MONUSCO, devraient jouer leur rôle en forçant, en contraignant ces gens à déposer les armes par la force, comme on l'a fait avec le M23. Donc, vous comprendrez que le Rwanda et l'Ouganda jouent un rôle majeur dans le maintien du statu quo sécuritaire dans la région des Grands Lacs, selon qu'ils se sentent, à tort ou à raison, menacés tantôt par les FDLR, tantôt par les ADF Nalu, et qu'il faut donc que la brigade et les FARDC entrent en action pour traquer ces groupes armés à l'instar du M23.
Oui, Mangloire Paluku, je vais vous poser presque la même question que je posais à Ludor Balekela. Le M23 est défait, mais les groupes armés continuent toujours à inquiéter au niveau de l'Est de la RDC. Quelle solution peut-être vous pouvez proposer pour pacifier l'Est de la RDC et ramener la paix au pays?
Samuel, excusez-moi, je veux revenir d'abord, juste une minute, sur ce que vous, les confrères ont dit.
Je vous en
effet,
prie.
Ici, les conclusions de Kampala sont claires. Depuis 10 mois, les deux délégations ont travaillé sur la fin du M23, sur la démobilisation du M23. Quand Bertrand Bisimwa, le président du M23, a annoncé la fin de la rébellion, il était dit que ces troupes devraient être cantonnées quelque part. Les conclusions de Kampala devraient maintenant se conduire d'elles-mêmes. Le M23 doit être cantonné quelque part, première étape, et enfin de le suivre et le disséminer loin des provinces du Nord-Kivu. Et aujourd'hui, avec cette évolution, la position assez dure du gouvernement congolais pousse qu'il y ait scission au sein du M23, et l'aile Kambasungebe est prête à aller dans les conclusions et signer ces conclusions-là. Donc c'est simple, la facilitation ougandaise, le président Museveni et son ministre de la Défense jouent absolument au trouble fait. Depuis qu'on est ici, on voit bien qu'il tergiverse. Et puis il est dit, ce qui a énervé le ministre des Affaires étrangères, j'étais là moi-même, c'est que le facilitateur lui a dit, bon, le document que vous allez rencontrer, c'est un document où la forme, le titre ne sera plus accord. Le titre sera déclaration. Mais c'est en allant chez son président que peut-être il n'a pas eu cette permission et qu'on l'a caché. Donc aujourd'hui, avec cette évolution, nous pouvons rentrer...
Mangloire Paluku,
oui.
Votre ligne a tendance à se dégrader. Est-ce que vous pouvez tenter de vous déplacer un peu, de bouger de sorte que la communication soit un peu plus parfaite? Mais en revenant toujours à ce que vous disiez, nous on se demande pourquoi est-ce que vous êtes en train de qualifier la position du gouvernement congolais d'une position dure. Est-ce que vous ne pensez pas que le rapport de force sur le terrain a beaucoup changé et c'est ça qui a motivé même la nouvelle position que le gouvernement congolais a pris?
Moi, ce ne sont pas mes mots. Je prends les mots du facilitateur ougandais. Monsieur Crispus Kiyonga m'a dit en Kiswahili, au cours d'une interview, qu'il y a eu évolution sur terrain et que le M23 a été vaincu. Donc, il y a une certaine évolution. Il avait promis au ministre Raimo Tshibanda de lui amener un texte pour la signature qui ne sera plus dans le avec le titre d'accord, qui sera une déclaration. Mais il n'a pas fait le jour là, c'est sûr que son président avait refusé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, la position dure, la déclaration dure du gouvernement et de bouder l'Ouganda fait réfléchir certains groupes armés. Aujourd'hui, par exemple, sur Kivu 1 et sur Radio Rapi, à Goma, on sait très bien qu'il y a beaucoup de groupes armés qui sont en train de quitter la bourse. Je parle de l'APCLS. Moi-même, j'ai parlé avec leurs chefs qui se disent, comme les FARDC se sont réorganisés, la brigade de la MONUSCO est là, si on a frappé le M23, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et cette position dure de peser très fort, même au niveau diplomatique et au niveau politique, plus qu'au niveau de la sécurité à l'intérieur, les groupes armés viennent annoncer eux-mêmes.
Merci, pour
que nous laissons nos activités, sauf dans le Walikale un tout petit peu. Enfin, c'est une conséquence. Ceci explique cela, comme dirait l'autre.
Merci, Magloire. Ludor Lekelei, nous sommes déjà à la fin de tout notre premier sujet.
Ah, oui.
Mais j'ai l'impression que vous voulez
placer un petit mot. Je voulais, contrairement à mon confrère Magloire Paluku qui est à Kampala et qui, lui, vit dans l'est du pays, au nord Kivu, où la guerre a sévi. Je ne voudrais pas, comme lui, appeler Monsieur Crispus Kiyonga facilitateur, mais plutôt c'est un complicateur
pourquoi,
de pourparlers de Kampala, parce que vous avez compris
Mais il a été ouvertement désigné comme facilitateur.
Oui, mais c'est pour cela que même en justice, Giscard a parlé de la partialité, ou donc même en justice, quand on se réalise que les juges est devenu partial, il faut les récuser, et c'est donc à cela que nous encourageons le gouvernement de la République lorsque une prochaine rencontre est prévue et qu'on constate qu'il y a ces manœuvres de Museveni avec son complicateur ougandais, il faut les récuser. Et je crois que la République ne va pas cesser d'exister. Par ailleurs, en ce qui concerne les FDLR et les ADF Nalu, ce qu'on peut leur demander à faire maintenant, c'est de préparer leur cahier des charges pour le dialogue avec le gouvernement rwandais pour les FDLR et le dialogue avec le gouvernement ougandais pour les ADF Nalu. Comme ça, les autres pourront obéir au mot d'ordre donc, de la communauté internationale quant à ce.
J'espère que nous terminons ce premier sujet avec vous.
Oui, en guise de conclusion, moi je dirais que le problème, il est complexe, donc il faudrait le résoudre dans tous ses aspects militaires, diplomatiques et politiques. Et c'est justement dans son volet diplomatique que le gouvernement devrait prendre langue maintenant avec les pays qui sont reconnus maintenant comme étant les parrains de toutes ces rébellions, parce qu'ils sont en train de garder des hommes armés, bien qu'officiellement démobilisés. Donc il faudrait prendre langue avec ces gens-là. Il faudrait maintenant au plan interne ici, activer la machine politique. Je crois que maintenant, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de vrais dialogues avec des forces politiques les plus significatives et des forces négatives aussi les plus significatives. On a dit ici, il y a une quarantaine de groupes armés qui sont encore opérationnels et qui sont d'ailleurs dans un système assez, c'est un peu la guérilla, un système compliqué. Ils vivent avec la population et ils sèment la terreur. Donc,
merci.
Je crois que maintenant, on devrait prendre tous ces aspects-là, mis ensemble pour essayer de résorber et de jeter les bases d'une paix durable en République démocratique du Congo.
Merci, Giscard Kossema. Sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. Le chef de l'État, Joseph Kabila, lors de son dernier discours devant le Congrès, avait annoncé des mesures importantes en réponse aux recommandations des concertations nationales. Il s'agit entre autres de la formation imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, de la mesure portant grâce présidentielle et de la fin de la guerre. Trois semaines après le discours du chef de l'État, où en sommes-nous à ce jour avec la mise en application de ces mesures? Tentative de réponse avec notre confrère Jacques-Yves Molima.
Il s'agissait entre autres de la mise en place du comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, de la nomination des représentants du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et la lutte contre la corruption, ou encore la poursuite dans un délai relativement court du cycle électoral, et surtout mettre fin au cycle de violence dans la partie est du pays et la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mé- Kamindi, un premier fait est déjà perceptible sur terrain.
La plus grande, la plus importante des mesures, qui était la fin de la guerre qu'on nous faisait à l'Est, a été accomplie. Je pense que maintenant, la rébellion du M23 a été vaincue. C'est la première promesse que les concertations ont arrachée du chef de l'État.
Quant à ce qui concerne la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, le chef consulte Adil Ambermendi.
Je pense que on ne presse pas un président de la République. Un président responsable consulte les gens. Il va proclamer, il a promis, ça va se faire. Il n'a jamais annoncé un délai, il a dit qu'il va le faire, il va le faire.
Quant aux autres mesures, notamment la poursuite du cycle électoral dans un délai voulu relativement court par le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement dit qu'il y a des séances de travaux qui se font entre la CENI et certaines institutions.
Giscard Koussema, comment est-ce que vous analysez l'application de ces mesures annoncées il y a 3 semaines par le chef de l'État?
Écoutez, il nous revient de constater, comme tout le monde d'ailleurs, que jusque-là, rien n'est encore fait dans le sens de mettre en application toutes les résolutions. Je voudrais d'abord dire ici que la crédibilité et le sérieux des assises de concertation nationale résident dans la mise en application de recommandations. Sinon, ce serait un diagnostic pour rien, ce serait donc un chapelet de bonnes intentions. Je voudrais ici également faire ma propre lecture. Il me semble que lorsque le chef de l'État a donné des réponses, il y a eu trois catégories de réponses. D'abord, les décisions que devrait prendre le président de la République. C'est des décisions qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Il me semble qu'il y en a eu très peu ou presque pas. Et puis, il y a eu des recommandations que les chefs de l'État donnaient, évoquant par exemple le respect du cycle électoral. Et puis, il y a un peu ce qu'on a, que nous-mêmes on a qualifié ici des intentions de bonne foi. Alors, donc, nous disons ici que nous avons une peur, une crainte d'aujourd'hui de faire un revirement et de dire que, bon, voilà, les concertations ont eu lieu dans un contexte précis, des guerres, il fallait rechercher la cohésion pour mettre fin à la guerre, maintenant que la guerre est finie, comme on l'a dit, et donc, ces assises n'ont plus leur importance. C'est une crainte que je formule. Or, ce serait une erreur, une grave erreur, car on l'a démontré ici, la victoire militaire ne vient pas à sonner ici le retour de la paix. Non, il y a encore du travail qui reste à faire. Et puis, l'autre lecture que j'ai fait, c'est de pouvoir un peu, comme l'a dit le porte-parole ici, réduire tout le travail qui a été fait au niveau des concertations nationales pour un simple gouvernement. Non, je crains fort. Et nous disons aussi qu'il y a plusieurs facteurs. Il ne faut pas croire que
il n'a pas que parlé du gouvernement. Il a parlé de la grâce présidentielle.
Oui, mais la grâce. Qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle? On sait qu'il y a des personnalités qui croupissent en prison. Des gens comme le pasteur Coutinho qui sont allés jusqu'à 7 ans de prison et à qui n'ont jamais bénéficié de cette grâce. Nous pensons que le pays se trouve maintenant devant un mur. Oui, il faut donc des gestes forts pour montrer que les concertations nationales n'auront pas été des assises pour rien et il ne faut pas les réduire à une formation du gouvernement parce que le simple remaniement ne va pas apporter la cohésion nationale. La cohésion nationale, elle ne peut se retrouver que lorsque toutes les forces significatives et représentatives viennent prendre part et réfléchissent ensemble
on
pour
revient
l'avenir.
À vous, jusqu'à tout à l'heure, Louis-Dior Balekelaï, pourquoi selon vous le gouvernement de cohésion nationale tarde à être mis en place, bien que Giscard Koussema a dit que les conclusions des concertations nationales ne devraient pas être seulement réduites à la formation du gouvernement d'union nationale.
Merci. Je dois avouer que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement et donc pas très attitré pour répondre à la question, mais parce que auparavant,
vous êtes un analyste politique.
Oui, justement, vous avez fait passer un élément sonore du ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Nous osons croire que le président Kabila, d'ailleurs, il faut le comprendre. Je vais prendre 2 petits cas très rapidement. Lorsque la ville de Goma est tombée, je crois qu'il s'apprêtait déjà à aller à Kampala et il a accordé une interview. Rien qu'à voir le décor dans lequel il avait accordé cette interview, il était vraiment sur le point de partir. Et il a gardé tout son calme. Il a dit que c'est dur, mais la République va rebondir. Aujourd'hui, je crois que les faits lui donnent raison quelque part là. Deuxième acte, c'est lorsque sa résidence a été attaquée par les Agnellés. Moi, j'habite la commune de Lemba. J'ai vu son cortège passer au niveau de
de la place échangeur. Et quand il a été informé de cela, il est rentré jusque à sa résidence et il a donné des instructions pour que la situation soit maîtrisée. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne subit pas de pression et que, en ce qui concerne par exemple le gouvernement, si vous savez que c'est un gouvernement où il y aura les opposants, où il y aura la société civile, où il y aura la majorité, c'est une sorte de mosaïque. Il faut prendre vraiment le temps nécessaire pour ne pas commettre des erreurs qui puissent appeler des contestations qui peuvent même mettre à mal la cohésion nationale tant recherchée par ce gouvernement. Et je dois, contrairement à mon confrère Giscard Koussema, dire que le gouvernement effectivement c'est un outil par excellence pour la matérialisation de la cohésion nationale. Autant d'autres institutions aussi qui ont reçu mandat de matérialiser ces recommandations. Mais avant de terminer, confrère, avec votre autorisation, je voudrais placer deux petits mots sur quelques pas déjà effectués en rapport avec ça, même si ce n'est pas suffisant, il faut le reconnaître. En ce qui concerne par exemple la grâce présidentielle, elle relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et n'efface pas les infractions, mais seulement le président de la République, en vertu de ce pouvoir, il accorde cette grâce. Et il y a le ministère de la Justice et le parquet qui ont été responsabilisés après l'ordonnance irrelative d'étudier au cas par cas pour voir qui est concerné par la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État. Autant pour l'amnistie aussi, qui est tant attendue, mais parce que elle se veut un acte politique de pardon qui doit être en conformité avec le droit international en ce qui concerne les crimes imprescriptibles, doit être soumise, cette amnistie doit être soumise au Parlement pour examen et adoption avant donc de passer à la matérialisation. Je crois qu'il y a eu 679 recommandations et que ce n'est pas dans un mois qu'on peut les appliquer. Il faut du temps et il ne faut pas seulement compter sur M. Kabila pour les appliquer. Il faut que tous les Congolais, chacun se sente concerné selon sa partie de pouvoir pour, n'est-ce pas, essayer de voir ce qu'il peut faire en rapport avec la cohésion nationale et recommandations issues des concertations nationales.
Merci Ludor. Magloire Paluku, je rappelle que vous êtes à Kampala, en Ouganda. Et selon vous, que faut-il pour accélérer ce processus ou la matérialisation de l'application des mesures importantes concernant les concertations nationales annoncées par Joseph Kabila?
Mais je pense que nous sommes déjà habitués en RDC à la vitesse des décisions du chef de l'État. Il prend tout son temps. Rien n'est cartésien, n'est pas réglé comme sur une montre suisse à la seconde. Mais je sais qu'il y a 6 jours, déjà pour les questions d'élection, les journaux à Kinshasa annonçaient que le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Badmalou, annonçait pour janvier 2014 le calendrier électoral des élections urbaines, municipales et locales. Pour pousser, en effet, ce qui va se faire sur les conclusions des concertations nationales, je pense que c'est un tout petit peu tôt. Le gouvernement qui est démissionnaire, qui est en train de fonctionner, en ce moment, semble continuer à vue pour attendre ce qui va venir. Donnons le temps au temps, ne pressons pas les choses, puisque avant cela, le calcul militaire, d'ailleurs, il est allé à une grande vitesse de fusée pour prendre toutes ces collines de Runyoni, Bunagana, c'est allé à moins d'une semaine. Je pense qu'il faut donner du temps au temps et que le président de la République est rentré, je pense, aujourd'hui à Kinshasa. Bon, peut-être que la semaine prochaine, il y aura déjà... on ne sait pas, mais de toutes les façons, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une précipitation. On est déjà habitué à des temps qui prennent, qui s'allongent comme ça, aux prolongations dans les sphères politiques du Congo.
Magloire Paluku, je vous remercie. Je considère ceci comme étant votre conclusion. Giscard Koussema, une petite conclusion, puisque nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, je voudrais dire ici que le temps est une donnée, est une denrée d'abord rare, et le temps, il est précieux. On ne devrait pas prendre tout son temps pour régler certaines questions qui ne demandent pas. Vous savez que ce retard pose un véritable problème de moralité. Un gouvernement qui est réputé démissionnaire, qui expédie donc des affaires courantes, mais qui est là pour une durée indéterminée, ça pose un véritable problème parce qu'on ne sait pas comment ils doivent réagir. Alors ici, il ne faudrait pas donner raison à ceux qui avaient boycotté les concertations nationales parce que justement, il manquait un arbitre international pour que les décisions soient opposables à tous. Maintenant, on se trouve devant ces véritables problèmes où c'est le chef de l'État qui doit choisir quelles sont les recommandations à appliquer et à quel temps il doit les faire. Et c'est pourquoi on risque d'assister ici à un simple remaniement et à faire beaucoup de déceptions qu'avant les concertations, où il y aura juste un premier ministre, on fait juste quelques retouches et on y met quelques opposants et croire qu'on a atteint la cohésion nationale.
Merci, Jessica Koussema. Ludo, une petite conclusion.
Non, la conclusion, c'est que je voudrais que tous ceux que les acteurs politiques qui ont reçu mandat de nous diriger peuvent faire, c'est d'orienter leurs efforts, leurs énergies, leurs pensées vers le bien, l'intérêt supérieur de notre peuple pour que, en tout cas, ce Congo redevienne effectivement une puissance, non seulement au niveau de l'Afrique centrale, mais également au niveau de toute l'Afrique et du monde, au regard, bien entendu, de ses potentialités qui doivent faire qu'aujourd'hui, nous puissions passer des avantages compétitifs, des avantages comparatifs aux avantages compétitifs sur la scène mondiale.
Je vous remercie et c'est avec vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que Jean-Claude Sall a été dans la partie technique, Guimat était à la réalisation, Samuel Kachak vous a présenté cette émission. La rediffusion, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur les antennes de Radio Okapi.